Son honneur, le maire de Montréal, Maître Jean Drapeau, donne ce soir une conférence de presse. Voici, pour faire les présentations, René Lévesque de Radio-Canada.
Bonsoir mesdames, messieurs. Notre invité ce soir, dont vous avez entendu le nom à la radio, que vous avez reconnu déjà en chair et en os à la télévision, n'aurait sûrement pas besoin d'être présenté plus longuement. Aux États-Unis, on dit que le deuxième ou le troisième personnage de la République, sûrement pas moins que le troisième, est le maire de New York, sa plus grande ville. L'homme qui est le maire de Montréal, notre plus grande ville, et celle qui résume le mieux la complexité de notre pays, est sûrement au moins autant au Canada. Or, il y a un an et quelques jours, tout le monde s'en souvient sûrement, Maître Jean Drapeau était élu maire de Montréal au milieu d'un enthousiasme sans précédent. Une scène dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville, au milieu de laquelle, sur une petite tribune, débordée, submergée, le vainqueur avait beaucoup plus l'air d'un naufragé que d'un triomphateur. Cet homme, élu à la tête d'un groupement qui portait la bannière de l'action civique et avec un programme très précis, Monsieur le maire de Montréal a bien voulu ce soir accepter de venir devant nos auditeurs, nos téléspectateurs, après un an, nous parler de ce qui a été fait, de ce programme, de ce qui se fait, de ce qui se fera, et peut-être aussi, sait-on jamais, de ce qui ne peut pas se faire. Et pour l'aider à déblayer cette matière très vaste et compliquée, eh bien, le grand patron des affaires montréalaises a devant lui trois hommes qui, chacun dans son secteur, sont également des grands patrons de la presse de la métropole. En vous les présentant, comme d'habitude, tout d'abord, à l'autre bout de notre grande table, voici M. Roger Duhamel, dont le sens civique a toujours été l'une des qualités maîtresses, à preuve le nom du journal dont il est rédacteur en chef, La Patrie. Et puis, M. Jean-Charles Harvey, qui après avoir été longtemps le plus mordant de nos journalistes de combat, goûte aujourd'hui un repos bien mérité, s'il permet une expression pareille, comme directeur des publications du Petit Journal. Et puis enfin, M. Gérard Filion, à qui son titre de supporter de la première heure du maire de Montréal donne droit au moins à la première question, afin qu'on voit s'il est encore un supporter. M. Filion.
Monsieur le maire, c'est un examen de conscience que nous vous aiderons à faire ce soir. Il y a un an, vous étiez élu maire de Montréal par une majorité écrasante en proposant un programme que je résumerai en trois points. Vous avez promis à la population montréalaise d'améliorer la circulation, de vous occuper du logement, démolition des taudis et construction de logements salubres, et de faire le nettoyage de la ville. La population montréalaise voudrait savoir ce que vous avez fait et ce qui reste à faire.
Est-ce que c'est une question qui va valoir pour la demi-heure?
Non!
Avec des petites interruptions, monsieur le maire.
Des sous-questions.
Alors, commençons par le nettoyage. J'ai la conviction que le nettoyage que nous avions commencé de l'extérieur s'est poursuivi de l'intérieur. Et ensuite, quant au problème de la circulation, j'avais proclamé que la clé du problème, c'était la création d'un service distinct de la circulation. Nous l'avons créé. Et bien qu'il n'existe que depuis quelques mois seulement, il a déjà attiré l'attention des citoyens qui constatent qu'en effet, il y a de l'amélioration. Et j'avais précisé à ce moment-là qu'il y avait trois groupes de solutions, peut-on dire, au problème de la circulation. Il y a les solutions qui ne coûtent rien. Il y a les solutions qui coûtent un tout petit peu d'argent et il y a les solutions d'envergure qui coûtent des millions. Il ne faut pas s'attendre, c'était impossible également, de s'attendre que dès les premiers mois, les trois groupes de solutions y passeraient. Mais M. Lacoste, le directeur du service de circulation, s'est attaqué résolument aux solutions qui ne coûtent rien. Il faut d'abord réglementer la circulation pour que nos rues soient d'abord utilisées à 100% de leur superficie. Ensuite, faire contracter aux automobilistes de nouvelles habitudes afin de faciliter la circulation. Et je peux dire que, personnellement, je suis entièrement satisfait du travail que M. Lacoste a fait dans le domaine de la circulation. Il reste le problème des taudis et du logement. Vous savez que le Conseil a voté à l'unanimité une résolution priant l'administration de poursuivre une politique de démolition des taudis et de reconstruction de logements. Le comité chargé de cela est en contact avec les autorités du gouvernement d'Ottawa, quand viendra le temps de présenter une formule, nous y verrons, mais il y a des membres du comité exécutif qui en sont chargés présentement.
Monsieur le maire, vous avez parlé des projets qui ne coûtent rien. Déjà, votre réglementation a amélioré sensiblement la circulation. Je suis un automobiliste moi-même, et puis je m'en suis aperçu. Réellement, dans notre quartier, c'est la paix aujourd'hui, grâce à vos règlements. Maintenant, vous avez parlé des projets qui coûtent quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous donner dans les grandes lignes les projets que vous auriez pour régler d'une façon plus définitive la circulation?
Certainement, dans les projets de deuxième classe, si vous voulez, qui coûtent un peu d'argent, bien évidemment, il y a les arrondissements de coins, les aménagements de rues. Il y a également, disons, le prolongement de la rue Burnside, qui est un projet dont on parlait depuis 75 ans, et en assez peu de temps, et à peine 11 jours à la commission municipale, le projet nous est revenu accepté. Et il y a là peut-être une question de millions, mais à comparer avec les vrais problèmes, les vraies solutions d'envergure qui coûtent 10, 15 ou 20 millions, c'est encore des solutions de second ordre, mais qui seront appelées à améliorer d'une façon très considérable l'utilisation des rues, parce que la journée que le prolongement de Burnside sera une chose faite et son raccordement avec un secteur de la rue Ontario et ensuite la rue de Montigny dans l'Est, bien, nous pourrons entrevoir d'utiliser la rue Sainte-Catherine comme rue à sens unique.
Pour demeurer, M. le maire, dans la circulation, est-ce que nous devons conclure, comme la phrase a été prononcée, que le rapport sur le métro est aux archives pour les historiens de l'avenir?
Voici. Je crois qu'il n'y a jamais eu de méprise dans le public sur cette question. Nous avons prêché, je dis nous parce que je parlais au nom d'un groupe, que ce qu'il faut d'abord, c'est d'utiliser toutes les solutions de surface. Et quand nous aurons vraiment fait un effort pour améliorer la circulation en surface, nous pourrons voir encore jusqu'à quel point le métro est une solution. Parce que qu'on le veuille ou non, de plus en plus, les citoyens voyagent sur roues dans des automobiles, des automobiles à eux, des automobiles de groupe, des compagnons de voyage, de travail voyagent ensemble. Alors, c'est ce qui explique partiellement la diminution du nombre de passagers dans les moyens de transport en commun. Et si déjà un service de transport en commun de surface a de la difficulté à boucler son budget, je me demande qu'est-ce qu'il en sera de réseau de métro, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on parle d'un métro. Un métro, ça ne veut rien dire. C'est un réseau de métro qu'il faudrait pour Montréal. Et ça, c'est au moins 500 millions.
Mais, M. le maire, à propos des transports en commun, est-ce que vous n'avez pas fait récemment une déclaration au moment où les billets montaient à 2 pour 25 à la commission de transport de Montréal? À savoir que les transports en commun, souvent, font exprès un peu pour perdre leurs propres passagers et que, de toute façon, cette augmentation-là est... Parce que le public est très intéressé à cette augmentation. Est-ce que vous pourriez répéter l'essentiel?
Voici. D'abord, je n'ignore pas que la commission de transport a hérité d'une situation vraiment difficile. La commission telle qu'elle est constituée n'est pas responsable de la situation telle qu'elle l'a prise. Mais je crois que c'est une raison de plus pour tenter d'augmenter le nombre de ses passagers au lieu de le réduire.
Et vous croyez que 2 pour 25, c'est plutôt pour le réduire?
Je crois que ça va le réduire. Je crois que de plus en plus, les compagnons de travail, vont voyager ensemble, ce qui va encore compliquer le problème de la circulation et du stationnement, parce qu'au lieu d'avoir moins d'automobiles, on va en avoir plus dans les rues de Montréal et autour des usines et des bureaux.
Bien, M. le maire, comment verriez-vous que la commission de transport puisse boucler son budget sans recourir à une hausse des billets? Y a-t-il d'autres moyens que vous pourriez suggérer?
La commission de transport a besoin de plus d'argent.
Oui, c'est un fait.
Plus il y aura de passagers, plus il rentrera d'argent. Et en établissant de nouveaux services, surtout avec les autobus aujourd'hui, ce n'est pas un problème, on n'est pas obligé de poser des rails. Il y a une foule de rues où il n'y a pas de service de transport en commun, et il faudrait en établir.
Et surtout inventer de nouveaux services.
Inventer de nouveaux services,
comme
absolument.
Le service pour le forum le samedi soir.
Certainement. Je crois, moi, que le citoyen sera toujours prêt à payer un supplément pour un supplément de service. Mais payer un supplément dans le prix, pour le même service qu'auparavant, le citoyen n'est pas satisfait. Le grand malheur, c'est que la cité, comme telle, ne peut absolument rien faire. La corporation de la commission de transport est une corporation absolument privée, absolument distincte de la ville. La ville ne peut absolument rien faire. Les commissaires sont nommés pour 10 ans. Ils ne rendent pas de compte à la ville. Et tout ce que la ville peut faire, c'est d'endosser à l'occasion les emprunts de la commission de transport. Mais la commission de transport n'est pas obligée de tenir la ville au courant de ses affaires.
Pourrez-vous prévoir une voie allant du nord au sud ou de l'est à l'ouest qui serait comme une autostrade, qui permettrait de faire comme un express, n'est-ce pas, d'aller rapidement de la périphérie jusqu'au centre?
Voici. Il a été longtemps question d'un tunnel sous la montagne. Je peux vous dire que les ingénieurs de la cité ont reçu instruction de travailler à l'élaboration des plans, non pas de plans dans le sens de projet, mais de plans d'ingénieurs, afin que la montagne soit traversée en direction sud-nord, nord-sud.
On se sert du tunnel déjà existant. On l'élargisse.
Voici, techniquement, il ne serait pas possible de l'élargir parce que ça supposerait que tout le service actuel serait suspendu tout le temps des travaux.
Ah bon?
L'on suggère plutôt qu'un autre tunnel soit percé immédiatement au-dessus du tunnel existant. Apparemment, ça réduirait le coût de construction énormément.
Est-ce que l'on prévoit aussi, M. le maire, une autostrade qui irait en bordure du port, par exemple, de l'est à l'ouest?
Oui. Maintenant, en fait d'autostrade, nos ingénieurs ont également reçu instruction après entente avec les chemins de fer, parce qu'à titre de président du comité des chemins de fer, j'ai mis de l'avant une proposition et j'ai obtenu des chemins de fer nationaux une réponse à l'effet qu'il n'y avait pas d'objection de principe. Jusqu'à présent, le Pacifique canadien nous a donné la même réponse, pas d'objection de principe, à étudier la possibilité de se servir de l'emprise des chemins de fer qui sillonnent la ville afin d'y construire par-dessus des autostrades. Là, les ingénieurs doivent voir si techniquement, maintenant, c'est possible. Un réseau d'autostrades comme ça, ce ne serait peut-être pas encore la réponse à tout le problème, mais si on veut passer encore 25 ans à discuter pour savoir où bâtir l'autostrade par excellence, nous allons passer 25 ans à attendre. Si nous pouvons techniquement construire des autostrades au-dessus des voies ferrées existantes qui traversent Montréal dans à peu près tous sens, nous allons pouvoir le réaliser très vite, sans coût d'expropriation et sans que les voisins d'une autostrade se plaignent de la dépréciation causée par la voie élevée. Là où il passe un train, il peut certainement passer une automobile sans que les voisins trouvent que leur propriété en est dévaluée.
Est-ce que vous n'auriez pas à vous entendre avec les autres municipalités? Je pense ici à Saint-Laurent, par exemple, et à Outremont. Il y a une voie chemin de fer ici, c'est une véritable voie de triage qui passe ici à l'entrée de Saint-Laurent et qui est sur une voie d'une circulation énorme du boulevard des Carrières. Et nous sommes arrêtés parfois des 15-20 minutes parce que des trains passent ici, aux portes de Montréal. Il y a une autre rue, Rockland, par exemple, c'est à Outremont, je crois, où énormément d'automobiles passent, et de plus en plus. Et nous sommes bloqués là constamment par des trains qui passent.
Je pense bien qu'une des raisons pour lesquelles le problème de la circulation est si grave dans Montréal, c'est précisément parce que les rues de Montréal sont employés beaucoup plus que les rues des autres municipalités. Et dès qu'il y a un obstacle, comme une cour de triage ou un chemin de fer, bien, la ville de Montréal a l'habitude de passer au moyen d'un tunnel, ce que les autres municipalités ne font pas toujours. Et parfois, il est plus facile pour l'automobiliste qui veut se rendre à Montréal de choisir toutes les rues autant que possible qui sont dans Montréal afin de raccourcir le trajet.
Monsieur le maire, derrière tous ces problèmes, surtout de circulation, surtout ceux que vous appelez secondaires ou tertiaires et qui entraînent des dépenses, il y a le problème de l'argent. C'est un fait admis que la province, avec ses 300 millions de budget, prend une bonne partie de son argent à Montréal. Et beaucoup de gens disent que cet argent-là, quand il revient, c'est comme il peut, mais non pas comme la ville veut, et non pas surtout parfois dans les proportions qu'elle mériterait. Sans vouloir vous entraîner dans la politique, même si on ne peut pas s'empêcher d'y toucher, est-ce que Montréal a un problème d'autonomie grave dans ce domaine-là?
Voici d'abord au sujet des moyens de communication qui amènent les problèmes financiers, parce que c'est probablement le problème de la circulation qui nous fait toucher du doigt l'ampleur de cette question de l'autonomie financière de la ville de Montréal et de l'aide que la ville de Montréal et les autres municipalités pourraient ou devraient recevoir des autres gouvernements. Il y a par exemple le problème du boulevard métropolitain. Déjà, les travaux sont commencés, les expropriations se font, il va se faire. Mais ça pose le problème de la répartition du coût. Et là, la ville de Montréal est dans la même situation que les autres municipalités au point de vue des sources de revenus. C'est une entreprise du boulevard métropolitain qui va coûter énormément cher. Qui s'impose? Il va falloir le faire, ça va se faire, mais ça va coûter énormément d'argent. De petites municipalités peuvent obtenir du gouvernement provincial de l'aide plus facilement parce que ça se déclare route provinciale. Mais la même route qui est route provinciale dans une petite municipalité, dès qu'elle arrive aux limites de la ville de Montréal, elle est entièrement une rue payée et entretenue par la ville de Montréal.
Est-ce que vous ne pourriez pas proclamer les rues routes provinciales, alors?
Il ne nous appartient pas de les proclamer.
Nous sommes la vache à lait du gouvernement provincial, peut-être.
Il semble que tout le monde est d'accord pour reconnaître que plusieurs de nos grandes rues sont des routes provinciales, excepté la province.
Monsieur, vous avez parlé il y a un instant qu'il ne fallait pas attendre 25 ans avant d'agir. Alors, une question qui change un peu de sujet, mais je sais qu'il vous intéresse beaucoup. Je présume que nous n'attendrons pas 25 ans pour la salle de concert.
J'espère bien que non.
Avez-vous des précisions récentes à
voici,
nous apporter?
Récente, j'ai eu vendredi une entrevue extrêmement encourageante encore avec Maître Tourigny, le chef de cabinet du premier ministre, que le premier ministre a chargé en ma présence, d'ailleurs au mois d'août, de voir à rédiger le projet de loi que lui-même, le premier ministre, présentera au cours de la prochaine session, qui s'ouvre mercredi, afin de créer l'organisme avec tous les pouvoirs qu'il faudra. Pour que, m'a dit le premier ministre, la salle de concert soit pas seulement un édifice solide, mais que l'institution juridique qui va la rendre possible soit également une institution juridique solide avec des pouvoirs et qui vont dire longtemps le soin qu'on a pris à mettre l'enfant au monde.
Est-ce que le site est définitivement choisi?
Bien, voici. Je peux parler seulement de ce qui s'est fait jusqu'à présent et il fallait que quelqu'un prenne l'initiative. Alors, je l'ai prise, j'ai cherché. Parce que le premier ministre, encore une fois, avait déclaré à maintes reprises que la province ferait sa part quand les Montréalais seraient d'accord. Je me suis employé pendant plusieurs mois à recevoir, sur convocation, divers groupes de gens qui s'intéressaient au problème. Et après étude de toute la question, il a été trouvé qu'on n'avait pas le choix des sites. Il y en avait un qui se prêtait merveilleusement bien à un projet de salle, qui était assez vaste, bien situé, facile d'accès, et qu'on pourrait avoir immédiatement. Le premier ministre avait déclaré, d'ailleurs déjà, qu'il ne permettrait pas que la ville de Montréal fasse des expropriations coûteuses pour une salle de concert. En cela, il avait parfaitement raison, mon premier. Alors, ce site-là s'est imposé de lui-même. Quand j'ai réalisé que tous les groupes qui auraient tiré à gauche ou à droite étaient d'accord, bien, j'ai pris sur moi d'aller à Québec. J'ai rencontré le premier ministre et je lui ai dit, bien, tous les groupements me paraissent maintenant d'accord. Alors, il a accepté le point de vue. Et il a affirmé à ce moment-là qu'il suggérait ceci, une entente tripartite, la province, la cité et les souscripteurs, et qu'il proposerait lui-même le projet de loi créant la corporation. Et je pense bien que le site, à moins que d'ici ce temps-là, un autre site surgisse comme par enchantement, je pense que l'unanimité avec laquelle la nouvelle a été reçue de tous les groupes et dans tous les milieux, que ce soit leur langue, leurs intérêts dans la question, que l'unanimité s'est faite sur le site. On reconnaît que c'est un site merveilleux.
Monsieur le maire, je comprends très bien la participation de la province et celle de la ville. Il s'agit de faire voter un montant et c'est tout. Mais comment envisagez-vous une souscription?
Ce sera une des tâches de la corporation à être formée, de mettre sur pied un comité de souscription. Et d'après les réactions du public, il semble que le public est prêt à faire sa part pour manifester que vraiment, une salle de concert, il en faut une à Montréal. Et je pense bien que ce ne sera pas seulement les Montréalais qui y contribueront. Parce qu'une salle de concert et de théâtre à Montréal constitue une attraction pour une grande ville. Et les gens qui habitent les municipalités environnantes, je pense, vont y participer.
Et M. le maire, vous parlez d'attraction, et avec grande raison, à la fois pour les résidents et pour les touristes éventuels. Et de quoi s'agit-il? On entend parler d'un vaste projet pour les sportifs dans l'est de la ville. Est-ce que c'est en marche ou ce n'est qu'une rumeur?
Ah, le centre sportif, il y en a question aussi depuis
oui, je sais.
20 ans au moins. C'est un autre vieux projet qu'on voudrait, qu'on a la hardiesse de vouloir régler. Et il semble de plus en plus que peut-être bien à la faveur de cet enthousiasme qui accompagne... qui marque l'avènement du football à Montréal, que nous pourrions commencer la réalisation du centre sportif par la construction d'un immense stade. Nous avons actuellement un stade à Montréal, mais il est dans une situation assez particulière. On nous dit trop grand pour les petites manifestations et trop petit pour les grandes. Et que, d'abord, le terrain ne se prête pas au football. Il n'est pas de la dimension voulue. Et il faudrait avoir autre chose. Et il semble bien que le football et une foule de manifestations viendraient à Montréal s'il y avait un stade pour le savoir.
Ce qui devrait faciliter probablement, c'est que vous êtes devenu maintenant une autorité en football. Par conséquent, ça devrait hâter les opérations.
Je constate avec plaisir que le football est une attraction de très grande envergure et que partout, c'est une vraie fièvre au pays et même aux États-Unis. L'an dernier, c'était ma première partie à laquelle j'assistais à Toronto et, mon Dieu, il y avait 100 postes de télévision qui transportaient les images partout aux États-Unis et au Canada.
Est-ce qu'on vous a fait faire le kick-off?
Ah oui, on m'a fait faire le kick-off l'an dernier.
Monsieur le maire, pour vous ramener, hélas, de ces choses extrêmement saines au vice, qui a été le début quand même, de votre, qui a marqué le début de votre avènement politique à Montréal, vous avez parlé tout à l'heure de ce nettoyage qui d'abord a été fait de l'extérieur et ensuite à l'intérieur. Et à ce propos, il y a des gens qui disent encore parfois que votre administration voudrait se mêler de moralité en parlant, et ils l'entendent dans le sens de se mêler de la vie des gens, de leur vie privée même. Qu'est-ce que vous entendez par moralité exactement quand vous l'employez?
Voici. Évidemment, ce n'est pas les gens de l'administration qui dictent et qui oseraient dicter aux journalistes de consacrer tel ou tel espace dans leurs journaux à telle ou telle nouvelle municipale. Seulement, je constate, par exemple, que les journaux ont un journaliste en permanence à l'hôtel de ville pour tous les services municipaux. Il y en a un autre qui s'occupe exclusivement du service de la police. Alors, au point de vue nouvelles, toutes les nouvelles qui se rattachent au service de la police sont des nouvelles plus vendables dans le journal. On aime mieux parler de ce qui se fait à la police que de parler d'une réorganisation du service d'urbanisme ou d'une réorganisation du service du bien-être social. Alors, dans les journaux...
Ça fait des moins belles photos.
Il y a ça. Il y a les photos, il y a les titres, enfin, tout ça.
Il n'y a pas de descente.
Il n'y a pas de descente. Alors, ça n'empêche pas que dans l'administration municipale, le secteur de la moralité, au point de vue police, qui est un secteur du service de la police. Par moralité, j'ai toujours dit que nous entendions la moralité publique. Et par ça, je l'ai répété bien des fois au cours de ma campagne, je l'ai dit également le soir de l'élection, nous entendons qu'un homme dans la vie publique doit apporter sa moralité privée. Il ne doit pas y avoir une moralité publique et une moralité privée. Et si on veut savoir si quelqu'un qui a toujours les mains sales et le visage sale a les pieds propres ou sales, on n'est pas obligé de le déchausser. Si quelqu'un ne se lave jamais le visage et les mains, il est bien probable qu'il a les pieds sales. Dans l'administration publique, si un secteur, comme le secteur de la moralité dans le service de la police, est visiblement l'objet d'incompétence, de négligence et même de participation à un état de choses qui est contraire à la loi, on n'est pas obligé de se demander qu'est-ce qui se passe dans les autres secteurs qui sont moins voyants.
Si je comprends bien, M. le maire, c'est la ville qui est chargée d'appliquer la loi provinciale de fermeture des établissements nocturnes, en fait des clubs.
Ah, voici.
Est-ce qu'il y a une nuance?
La loi des liqueurs, comme on l'appelle couramment, n'est pas différente de la loi des véhicules motorisés. Je n'ai jamais compris ce scandale de certaines personnes qui disent que la ville ne devrait pas s'occuper de l'application de la loi des liqueurs parce que c'est une loi provinciale. Mais dans ce cas-là, c'est un principe extrêmement dangereux parce que nous ne nous occuperons plus de la loi des véhicules moteurs et vous pourrez conduire demain à 90 000 dans les rues de Montréal. Parce que c'est une loi provinciale qui fixe la vitesse.
Essayez à 90 000 dans les rues de Montréal.
disons 50 aux intersections.
Oui.
Mais un autre exemple qui vous fera bien comprendre que la ville ne fait pas de zèle en appliquant la loi des liqueurs, c'est qu'il y a un règlement qui dit qu'un chauffeur de taxi doit obtenir un permis pour conduire dans les rues de Montréal. Ce permis-là, il doit être soumis à l'approbation du directeur de la police. Eh bien, supposons un cas. J'ai conduit des automobiles, j'ai été condamné 25 fois pour passer sur des lumières rouges, conduire en état d'ivresse, ne pas respecter les limites de vitesse. Je fais une demande pour conduire un taxi. Est-ce que le chef de police, se basant sur les condamnations que j'ai eues au volant, est justifiable de ne pas s'objecter à ce qu'on me donne un permis de conduire un taxi? Au contraire, si le chef de police permet à un chauffeur de taxi qui a été condamné plusieurs fois pour des offenses à la loi des véhicules moteurs d'avoir un permis pour conduire un taxi, on va dire le chef de police, il n'applique pas la loi comme il faut, et pourtant c'est une loi provinciale. Alors, quand quelqu'un demande un permis de restaurant et que le règlement dit passer par le conseil, et même un règlement qui était là avant la nouvelle administration dit l'obtention du permis sera soumise à l'approbation du chef de police, entre autres approbations. Il y a le service d'hygiène et tout ça. Mais sera soumise, entre autres, à l'approbation du service de la police. Est-ce que le chef de police doit simplement signer une simple formalité, ou si son approbation veut dire quelque chose? Et si son approbation veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il a regardé quelle était la conduite de ce monsieur. Est-ce qu'il respecte les lois ou s'il ne les respecte pas? Autrement, c'est inutile que le règlement soumette l'obtention du permis à l'approbation du chef de police.
Justement, monsieur le maire, le problème qui se pose, à mon sens, c'est que on répète, à tort ou à raison, qu'il y a encore certains clubs à Montréal qui ne ferment à peu près jamais.
Voici la situation. Contre tous les clubs qui ne respectent pas la loi, il y a eu des causes de fait. Il y a des causes pendantes devant la cour municipale. Vous savez que certains clubs ont institué devant la cour supérieure des procédures pour empêcher la ville de révoquer le permis ou pour contraindre la ville d'émettre un permis. Toutes les causes sur la loi des liqueurs devant la cour municipale sont suspendus en attendant les décisions finales à la cour supérieure. Il se produit là la même chose que pour la loi de fermeture des jours de fête religieuse. Il y avait des milliers de causes pendantes qui ont toutes été soumises au dernier jugement à être rendu. Mais une chose certaine, par exemple, il y a au moins 3 ou 4 causes de fait contre chacun des clubs qui violent la loi. Et lorsqu'en définitive, les tribunaux de juridiction supérieure se seront prononcés, et que le droit de la Ville de Montréal, comme le juge Claude Prévost l'a reconnu dans une procédure récente, sera bien établi, les clubs dont les causes passeront devant la cour municipale seront exposés à ce moment-là à se faire cadenasser, parce qu'il y a le règlement 921 qui prévoit que lorsqu'il y a 2 offenses, le chef de police encore n'a pas juridiction, n'a pas d'alternative, n'a pas de latitude très grande. Il doit faire rapport à un juge de la cour municipale. Et le juge de la cour municipale doit émettre une ordonnance de cadenas pour cadenasser l'établissement.
En d'autres termes, vous faites comme nous, vous attendez lumière verte.
Est-ce qu'il n'y a pas des poursuites intentées contre la ville par ceux qui ont eu un permis de refuser à l'heure actuelle?
Oui, et c'est ça. Ces poursuites-là sont prises devant la cour supérieure. Un jugement a été rendu par l'honorable juge Prévost reconnaissant le droit du chef de police de s'objecter et de la Cité de Montréal à refuser un permis. Et ce sont ces causes-là qui sont devant la cour supérieure. D'autres sont dans la cour supérieure. Celle du jugement rendu par l'honorable juge Prévost a été inscrite en appel. Et lorsque tout cela sera dénoué une fois pour tout sur le plan judiciaire, nous procéderons avec les causes, les centaines de causes pendantes contre les clubs violateurs de la loi. Et à ce moment-là, ils diront peut-être qu'on est trop sévère, mais ce sera le cadenas sans rémission. Ces gens-là auront leurs établissements cadenassés.
Monsieur le maire, j'habite la Rive-Sud et alors, matin et soir, je vois les travaux de canalisation du Saint-Laurent, n'est-ce pas, qui avancent très rapidement. Qu'est-ce que la Ville a fait pour se rendre compte?
M. Fillon, est-ce que vous pouvez laisser finir la question?
Je ne sais pas, si le temps le permet.
Parce que vous abordez un immense sujet, notre demi-heure est déjà terminée, et il y avait encore au moins 4 ou 5 lignes avec des sujets importants sur la petite feuille de M. Fillon. Est-ce qu'on pourrait compter sur vous, M. le maire, à la fin de votre deuxième année?
Certainement.
Alors, en attendant cette prochaine rencontre...
Peut-être qu'après 2 ans, il n'y aura pas de questions à poser parce que tout le monde se rendra compte que le programme a été exécuté à la lettre.
Il ne reste plus que le temps de vous remercier, M. le maire, pour cette fois-ci. À l'an prochain, et merci à nos journalistes également. Bonsoir, mesdames, messieurs.
Son honneur, le maire de Montréal, Maître Jean Drapeau, donnait ce soir une conférence de presse. Il était interrogé par Roger Duhamel, Jean-Charles Harvé, Gérard Fillion et René Lévesque. Cette émission passe à la télévision et à la radio. Direction technique, Oscar Marcoux. Réalisation, Jacques Landry.
Cette émission vous reviendra la semaine prochaine à cette même heure, même jour. Nous vous invitons à être à l'écoute.